Au moment où le vieux curé de Marsac montait les rampes d'Angoulême pour aller instruire Ève de l'état où se trouvait son frère, David était caché depuis 11 jours à deux portes de celle du pharmacien Postel que le digne prêtre venait de quitter. Quand l'abbé Marron déboucha sur la place du Mûrier, il y trouva les trois hommes, remarquables chacun dans leur genre, qui pesaient de tout leur poids sur l'avenir et sur le présent du pauvre prisonnier volontaire. Le père Séchard, le grand Cointet, le petit avoué Maigrelet. Trois hommes, trois cupidités. Mais trois cupidités aussi différentes que les hommes. L'un avait inventé le trafiquer de son fils, l'autre de son client, et le grand Cointet achetait toutes ses affamies en se flattant de ne rien payer. Il était environ 5 heures, et la plupart de ceux qui revenaient dîner chez eux s'arrêtaient pour regarder pendant un moment ces trois hommes. Que diable le vieux père Séchard et le grand Cointet ont-ils donc à se dire? Pensaient les plus curieux. Il s'agit sans doute entre eux de ce pauvre malheureux qui laisse sa femme, sa belle-mère et son enfant sans pain, répondait-on. Envoyez donc vos enfants à prendre un état à Paris, disait un esprit fort de province. Et que venez-vous faire par ici, monsieur le curé? S'écria le vigneron en apercevant l'abbé Marron aussitôt qu'il déboucha sur la place. « Je viens pour les vôtres, » répondit le vieillard. « Encore une idée de mon fils, » dit le vieux Séchard. « Il vous en coûterait bien peu de rendre tout le monde heureux, » dit le prêtre en indiquant les fenêtres où Madame Séchard montrait entre les rideaux sa belle tête, car elle apaisait les cris de son enfant en le faisant sauter et lui chantant une chanson. « Apportez-vous des nouvelles de mon fils, » dit le père, « ou, ce qui vaudrait mieux, de l'argent ?»« Non, » dit Monsieur Marron. J'apporte à la sœur des nouvelles du frère. De Lucien? S'écria Petit Claud. Oui, le pauvre jeune homme est venu de Paris à pied. Je l'ai trouvé chez Courtois mourant de fatigue et de misère, répondit le prêtre. Oh, il est bien malheureux. Petit Claud salua le prêtre et prit le grand Cointet par le bras en disant à haute voix. Nous dînons chez Madame de Sénonches, il est temps de nous habiller. Et à deux pas, il lui dit à l'oreille. Quand on a le petit, on a bientôt la mère. Nous tenons David. « Je vous ai marié, mariez-moi, » dit le grand Cointet en laissant échapper un sourire faux. « Lucien est mon camarade de collège, nous étions copains. En 8 jours, je saurai bien quelque chose de lui. Faites en sorte que les bans se publient et je vous réponds de mettre David en prison. Ma mission finit avec son écrou. »« Ah !» s'écria tout doucement le grand Cointet, « la belle affaire serait de prendre le brevet à notre nom. » En entendant cette dernière phrase, le petit avoué Maigrelet frissonna. En ce moment, Ève voyait entrer son beau-père et l'abbé Marron, qui, par un seul mot, venait de dénouer le drame judiciaire. « Tenez, Madame Séchard, » dit le vieil ours à sa belle-fille, « voici notre curé qui vient sans doute nous a raconté de belles sur votre frère. »« Oh !» s'écria la pauvre Ève atteinte au cœur. « Que peut-il donc lui être encore arrivé ?» Cette exclamation annonçait tant de douleurs ressenties, tant d'appréhensions et de tant de sortes, que l'abbé Marron se hâta de dire. « Rassurez-vous, madame, il vit. »« Seriez-vous assez bon, mon père, » dit Ève au vieux vigneron, « pour aller chercher ma mère. Elle entendra ce que monsieur doit avoir à nous dire de Lucien. » Le vieillard alla chercher madame Chardon, à laquelle il dit, « Vous aurez à en découdre avec l'abbé Marron, qui est bon homme, quoique prêtre. Le dîner sera sans doute retardé, je reviens dans 1 heure. » Et le vieillard, insensible à tout ce qui ne sonnait ou ne reluisait pas or, laissa la vieille femme sans voir l'effet du coup qu'il venait de lui porter. Le malheur qui pesait sur ses deux enfants, l'avortement des espérances assises sur la tête de Lucien, le changement si peu prévu d'un caractère qu'on crut pendant si longtemps énergique et prompt, enfin, tous les événements arrivés depuis 18 mois avaient déjà rendu Madame Chardon méconnaissable. Elle n'était pas seulement noble de race, elle était encore noble de cœur et adorait ses enfants. Aussi avait-elle souffert plus de maux en ces derniers 6 mois que depuis son veuvage. Lucien avait eu la chance d'être rubempré par ordonnance du roi, de recommencer cette famille, d'en faire revivre le titre et les armes, de devenir grand, et il était tombé dans la fange. Car, plus sévère pour lui que la sœur, elle avait regardé Lucien comme perdu le jour où elle a pris l'affaire des billets. Les mères veulent quelquefois se tromper, mais elles connaissent toujours bien les enfants qu'elles ont nourris, qu'elles n'ont pas quittés, et, dans les discussions que soulevaient entre David et sa femme les chances de Lucien à Paris, Madame Chardon, tout en paraissant partager les illusions d'Ève sur son frère, tremblait que David n'eût raison, car il parlait comme elle entendait parler sa conscience de mère. Elle connaissait trop la délicatesse de sensation de sa fille pour pouvoir lui exprimer ses douleurs. Elle était donc forcée de les dévorer dans ce silence dont sont capables seulement les mères qui savent aimer leurs enfants. Ève, de son côté, suivait avec terreur les ravages que faisaient les chagrins chez sa mère. Elle la voyait passant de la vieillesse à la décrépitude et allant toujours. La mère et la fille se faisaient donc l'une à l'autre de ces nobles mensonges qui ne trompent point. Dans la vie de cette mère, la phrase du féroce vigneron fut la goutte d'eau qui devait remplir la coupe des afflictions. Madame Chardon se sentit atteinte au cœur. Aussi, quand Ève dit au prêtre « Monsieur, voici ma mère !» Quand l'abbé regarda ce visage macéré comme celui d'une vieille religieuse, encadré de cheveux entièrement blanchis, mais embelli par l'air doux et calme des femmes pieusement résignées et qui marchent, comme on dit, à la volonté de Dieu, comprit-il toute la vie de ces deux créatures. Le prêtre n'eut plus de pitié pour le bourreau, pour Lucien. Il frémit en devinant tous les supplices subis par les victimes. « Ma mère !» dit Ève en s'essuyant les yeux. « Mon pauvre frère est bien près de nous. Il est à Marsac. » « Et pourquoi pas ici ?» demanda Madame Chardon. L'abbé Marron raconta tout ce que Lucien lui avait dit des misères de son voyage et les malheurs de ses derniers jours à Paris. Il peignit les angoisses qui venaient d'agiter le poète quand il avait appris quelles étaient au sein de sa famille les effets de ses imprudences et quelles étaient ses appréhensions sur l'accueil qui pouvait l'attendre à Angoulême. « En est-il arrivé à douter de nous ?» dit Madame Chardon. « Le malheureux est venu vers vous à pied, en subissant les plus horribles privations. » Et il revient disposé à entrer dans les chemins les plus humbles de la vie, à réparer ses fautes. « Monsieur, dit la sœur, malgré le mal qu'il nous a fait, j'aime mon frère comme on aime le corps d'un être qui n'est plus. Et l'aimer ainsi, c'est encore l'aimer plus que beaucoup de sœurs n'aiment leurs frères. Il nous a rendus bien pauvres. Mais qu'il vienne, il partagera le chétif morceau de pain qui nous reste, enfin, ce qu'il nous a laissé. Ah, si nous ne nous avions pas quittés, monsieur, nous n'aurions pas perdu nos plus chers trésors. Et c'est la femme qui nous l'a enlevé dont la voiture l'a ramené, s'écria Madame Chardon. Partie dans la calèche de Madame de Bargeton, à côté d'elle, il est revenu derrière. À quoi puis-je vous être utile dans la situation où vous êtes? Dit le brave curé qui cherchait une phrase de sortie. Eh, monsieur, répondit Madame Chardon, plaie d'argent n'est pas mortelle, dit-on, mais ces plaies-là ne peuvent pas avoir d'autre médecin que le malade. Si vous aviez assez d'influence pour déterminer mon beau-père à aider son fils, vous sauveriez toute une famille. Dit Madame Séchard. Il ne croit pas en vous et il m'a paru très exaspéré contre votre mari, dit le vieillard à qui les paraphrases du vigneron avaient fait considérer les affaires de Séchard comme un guépier où il ne fallait pas mettre le pied. Sa mission terminée, le prêtre alla dîner chez son petit-neveu Postel, qui dissipa le peu de bonne volonté de son vieil oncle en donnant, comme tout Angoulême, raison au père contre le fils. Il y a de la ressource avec des dissipateurs, dit en finissant le petit Postel. Mais avec ceux qui font des expériences, on se ruinerait. La curiosité du curé de Marsac était entièrement satisfaite, ce qui, dans toutes les provinces de France, est le principal but de l'excessif intérêt qu'on s'y témoigne. Dans la soirée, il mit le poète au courant de tout ce qui se passait chez les Séchard, en lui donnant son voyage comme une mission dictée par la charité la plus pure. Vous avez endetté votre sœur et votre beau-frère de 10 à 12 000 francs, dit-il en terminant. Et personne, mon cher monsieur, n'a cette bagatelle à prêter aux voisins. En Angoumois, nous ne sommes pas riches. Je croyais qu'il s'agissait de beaucoup moins quand vous me parliez de billets. Après avoir remercié le vieillard de ses bontés, le poète lui dit « La parole de pardon que vous m'apportez est pour moi le vrai trésor. » Le lendemain, Lucien partit de très grand matin de Marsac pour Angoulême, où il entra vers 9 heures, une canne à la main, vêtu d'une petite redingote assez endommagée par le voyage et d'un pantalon noir à teinte blanche. Ses bottes usées disaient d'ailleurs assez qu'il appartenait à la classe infortunée des piétons. Aussi ne se dissimulait-il pas l'effet que devait produire sur ses compatriotes le contraste de son retour et de son départ. Mais, le cœur encore pantelant sous l'étreinte des remords que lui causait le récit du vieux prêtre, il acceptait pour le moment cette punition, décidé d'affronter les regards des personnes de sa connaissance. Il se disait en lui-même « Je suis héroïque ». Toutes ces natures de poète commencent par se duper elles-mêmes. À mesure qu'il marcha dans l'Houmeau, son âme lutta entre la honte de ce retour et la poésie de ses souvenirs. Son cœur battit en passant devant la porte de Postel où, fort heureusement pour lui, Léonie Marron se trouva seule dans la boutique avec son enfant. Il vit avec plaisir, tant sa vanité conservait de force, le nom de son père effacé. Depuis son mariage, Postel avait fait repeindre sa boutique et mis au-dessus, comme à Paris, pharmacie. En gravissant la rampe de la porte palais, Lucien éprouva l'affluence de l'air natal. Il ne sentit plus le poids de ses infortunes et se dit avec délices « Je vais donc les revoir !» Il atteignit la pièce du mûrier sans avoir encore rencontré personne. Un bonheur qu'il espérait à peine, lui qui jadis se promenait en triomphateur dans sa ville. Marion et Kolb, en sentinelle sur la porte, se précipitèrent dans l'escalier en criant « Le voilà !» Lucien revit le vieil atelier et la vieille cour. Il trouva dans l'escalier sa sœur et sa mère, et ils s'embrassèrent en oubliant pour un instant tout leur malheur dans cette étreinte. En famille, on compose presque toujours avec le malheur. On s'y fait un lit, et l'espérance en fait accepter la dureté. Si Lucien offrait l'image du désespoir, il en offrait aussi la poésie. Le soleil des grands chemins lui avait bruni le teint. Une profonde mélancolie, empreinte dans ses traits, jetait ses ombres sur son front de poète. Ce changement annonçait tant de souffrance qu'à l'aspect des traces laissées par la misère sur sa physionomie, le seul sentiment possible était la pitié. L'imagination partie du sein de la famille y trouvait au retour de tristes réalités. Ève eut au milieu de sa joie le sourire des saintes au milieu de leur martyre. Le chagrin rendit sublime le visage d'une jeune femme très belle. La gravité qui remplaçait dans la figure de sa sœur la complète innocence qu'il y avait vue à son départ pour Paris parlait trop éloquemment à Lucien pour qu'il n'en reçût pas une impression douloureuse. Aussi, la première effusion des sentiments, si vive, si naturelle, fut-elle suivie de part et d'autre d'une réaction. Chacun craignait de parler. Lucien ne put cependant s'empêcher de chercher, par un regard, celui qui manquait à cette réunion. Ce regard, bien compris, fit fondre en larmes Ève et par contre-coup Lucien. Quant à Madame Chardon, elle resta blême et en apparence impassible. Ève se leva, descendit pour épargner à son frère un mot dur et alla dire à Marion « Mon enfant, Lucien aime les fraises, il faut en trouver. » « Oh, j'ai bien pensé que vous vouliez fêter Monsieur Lucien. Soyez tranquille, vous aurez un joli petit déjeuner et un bon dîner aussi. »« Lucien, » dit Madame Chardon à son fils, « tu as beaucoup à réparer ici. Parti pour être un sujet d'orgueil pour ta famille, tu nous as plongés dans la misère. Tu as presque brisé dans les mains de ton frère l'instrument de la fortune à laquelle il n'a songé que pour sa nouvelle famille. Tu n'as pas brisé que cela, » dit la mère. Il se fit une pause effrayante. Et le silence de Lucien impliqua l'acceptation de ses reproches maternels. Entre dans une voie de travail, reprit doucement Madame Chardon. Je ne te blâme pas d'avoir tenté de faire revivre la noble famille d'où je suis sortie. Mais à de telles entreprises, il faut avant tout une fortune et des sentiments fiers. Tu n'as rien eu de tout cela. À la croyance, tu as fait succéder en nous la défiance. Tu as détruit la paix de cette famille travailleuse et résignée qui cheminait ici dans une voie difficile. Aux premières fautes, un premier pardon est dû. Ne recommence pas. Nous nous trouvons ici dans des circonstances difficiles. Sois prudent. Écoute ta sœur. Le malheur est un maître dont les leçons, bien durement données, ont porté leurs fruits chez elle. Elle est devenue sérieuse. Elle est mère. Elle porte tout le fardeau du ménage par dévouement pour notre cher David. Enfin, elle est devenue, par ta faute, mon unique consolation. Vous pouviez être plus sévère, dit Lucien en embrassant sa mère. J'accepte votre pardon, parce que ce sera le seul que j'aurai jamais à recevoir. Ève revint. À la pause humiliée de son frère, elle comprit que Madame Chardon avait parlé. Sa bonté lui mit un sourire sur les lèvres, auquel Lucien répondit par des larmes réprimées. La présence a comme un charme. Elle change les dispositions les plus hostiles entre amants comme au sein des familles, quelques forts que soient les motifs de mécontentement. Est-ce que l'affection trace dans le cœur des chemins où l'on aime à retomber? Ce phénomène appartient-il à la science du magnétisme? La raison dit-elle qu'il faut ou ne jamais se revoir ou se pardonner? Que ce soit au raisonnement, à une cause physique ou à l'âme que cet effet appartienne, chacun doit avoir éprouvé que les regards, le geste, l'action d'un être aimé retrouvent chez ceux qu'il a le plus offensé, chagriné ou maltraité, des vestiges de tendresse. Si l'esprit oublie difficilement, si l'intérêt souffre encore, Le cœur, malgré tout, reprend sa servitude. Aussi, la pauvre sœur, en écoutant jusqu'à l'heure du déjeuner les confidences du frère, ne fut-elle pas maîtresse de ses yeux quand elle le regarda, ni de son accent quand elle laissa parler son cœur. En comprenant les éléments de la vie littéraire à Paris, elle comprit comment Lucien avait pu succomber dans la lutte. La joie du poète en caressant l'enfant de sa sœur, ses enfantillages, le bonheur de revoir son pays et les siens, mêlés au profond chagrin de savoir David caché, les mots de mélancolie qui échappèrent à Lucien, son attendrissement en voyant qu'au milieu de sa tendresse, sa sœur s'était souvenue de son goût comme Marion servit les fraises. Tout, jusqu'à l'obligation de loger le frère prodigue et de s'occuper de lui, fit de cette journée une fête. Ce fut comme une halte dans la misère. Le père Séchard lui-même fit rebrousser aux deux femmes le cours de leurs sentiments en disant « Vous le fêtez comme s'il vous apportait des mille et des cents !»« Mais qu'a donc fait mon frère pour ne pas être fêté ?» s'écria Madame Séchard, jalouse de cacher la honte de Lucien.